à chaque fois il y a une explosion de colère dans la rue, des mouvements de masse, etc., mais qui ne s'attaque pas vraiment aux problèmes structurels. Quelques intellectuels, bien sûr, ont parlé de la situation très très fragile, très précaire de ces travailleurs, en particulier de ces travailleuses, hein, puisque c'est beaucoup de femmes, mais en général, au bout de quelques jours, la situation est oubliée, le problème est oublié, et le gouvernement ne fait rien véritablement pour mettre la pression sur les propriétaires d'usines.
Mais justement, pourquoi ces autorités ne font rien ? On sait que la confection est un des pivots de l'économie du Bangladesh. Pourquoi justement les autorités, au contraire, ne protègent pas cette industrie ?
À peu près 70% des exportations du Bangladesh, qui partent du Bangladesh, sont dans le secteur textile. Donc c'est extrêmement important. Les deux partis dominants au Bangladesh, que ce soit la Awami League en ce moment au pouvoir ou le BNP, marchent main dans la main avec les milieux capitalistes. Même le parti Awami League, qui se dit plutôt de gauche ou de centre-gauche, est en fait totalement aux mains, disons, de ces grands industriels du secteur textile. Et donc, il n'est rien fait, disons, pour améliorer les conditions de travail, surtout faire que des syndicats puissants puissent émerger et puissent jouer le rôle de contre-pouvoir. En fait, le gouvernement est clairement à la botte des milieux capitalistes, des milieux industriels.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pousse toujours plus les ouvrières, dans ce cas-ci, à travailler plus dans des conditions précaires, dans des structures précaires. On ne fait pas attention, on essaie d'investir le moins possible pour dégager le maximum de profit, si je vous comprends bien ?
C'est un secteur totalement privé. Hein. Il y a presque pas d'industrie publique. Il y a eu une grande vague de privatisation dans les années 80. Donc c'est un secteur réellement privé et qui n'est pas du tout régulé. Donc les propriétaires d'usines, eux, font face à une demande gigantesque de la part en particulier des pays occidentaux. Une grande pression sur le temps de production, sur la qualité des produits, etc. Et donc, je dirais que les victimes de cette course à la production, à la productivité, ce sont bien sûr les travailleurs qui ont globalement pas plus de 100 takas par jour. Ça fait à peu près 1 euro en moyenne. Hein. Et donc, c'est considéré comme le seuil de pauvreté, 1 euro.
Ces catastrophes, est-ce que c'est aussi la conséquence d'une délocalisation industrielle de la Chine, de la région, vers le Bangladesh ?
Tout à fait. En fait, le Bangladesh est face à une concurrence gigantesque de part et d'autre de la frontière, c'est-à-dire du côté chinois et du côté indien, qui risque de concurrencer le Bangladesh, notamment sur les coûts de production, sur le coût du travail, qui était jusqu'à présent le point fort du Bangladesh. Mais ce coût de production commence à être concurrencé par des pays comme le Vietnam, par exemple. Et puis, en même temps, il y a une grande précarité, une grande vétusté des équipements. Ça, en général, les producteurs, les acheteurs plutôt européens ou occidentaux commencent à le savoir et à faire la part des choses entre un coût du travail très faible, mais en même temps une production qui peut stopper à tout moment à cause d'une grève, à cause d'une catastrophe comme celle-là.
Et est-ce que les responsables de ces catastrophes risquent réellement quelque chose face à la justice au Bangladesh ?
Pas grand-chose, pour vous dire. J'étais assez étonné en regardant les différents articles de journaux locaux, parce qu'on parle plus de justement des problèmes suscités par l'arrêt de la production, mais c'est plutôt, bizarrement, c'est plutôt ce qui inquiète les gens, plutôt que le drame en soi, si vous voulez, la catastrophe en soi. Donc c'est un discours qui est assez cynique et que je trouve peu encourageant pour les droits des travailleurs, disons.